Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Non, mais on se croirait à l'Assemblée nationale, franchement. Christophe, tu peux nous laisser parler, s'il te plaît.
Les grandes gueules du sport.
Non, mais t'es insupportable ce matin, Pascal. T'es insupportable.
La bouboule.
Donnez-lui des vacances.
Mais n'importe quoi, il y en a marre. C'est quoi ce cirque?
Arrêtez-le, s'il vous plaît.
Jean-Christophe Drouet.
Okay. Et c'est vrai qu'il est très grand, Christophe Cessieu, avec Denis Charvet, Fred Weiss, Pascal Duprat. Aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est vrai que le premier débat était très animé autour des Coupes du Monde. Je vous propose d'aller écouter ça en baissant un peu le volume, mais vous pouvez aller l'écouter en podcast.
Ils sont pas obligés.
Si, vous allez vous régaler parce que c'est extrêmement chaud. Et ça va continuer dans le studio RMC. Nous allons parler dans quelques instants d'Oscar Jégou et d'Hugo Oradou. Avez-vous envie de les revoir avec le 15 de France, eux qui sont désormais sélectionnables avec les Bleus? C'est clairement mon but de faire l'équipe de France tous les étés. La punchline est signée Victor Wembanyama cette semaine. Est-ce une parole en l'air? On en débat à 10h30. Et puis 11h, la sensation Brest en Ligue des Champions, qualifiée à minima pour les barrages. Une question se pose désormais. Les Brestois doivent-ils aller jouer au Stade de France? Oui ou non? Vous n'êtes pas d'accord là encore. Mais GG, nous allons débuter cette deuxième heure d'émission avec cette citation de Jules Renard qui a dit un jour, les absents ont toujours tort de revenir.
RMC, le bras de fer GG.
Oscar Jégou et Hugo Oradou sont dans l'avion. Ils sont en train de rentrer en France 2 mois quasiment après avoir été inculpés pour viol en Argentine.
C'est quelque chose de très grave et très important. Donc la justice prendra le temps qu'il faut pour prendre leur bonne décision et on l'espère favorable.
En tout cas, on est très content de le revoir sur le terrain.
On a attendu que la justice fasse son cheminement. On a été très clair, ils ne rejoueront pas en équipe de France tant qu'il n'y a pas de non-lieu.
Après 5 mois de procédure, Oscar Jégou et Hugo Oradou sont enfants reconnus innocents.
Eh oui, c'est comme Bernard, ils sont innocents. Et donc, ils sont sélectionnables. Florian Grill ouvre la porte du 15 de France à Oscar Jégou et Hugo Oradou, accusés de viol, vous le savez, pendant la tournée estivale des Bleus en Argentine. Les deux joueurs ont bénéficié cette semaine d'un non-lieu. Plus rien désormais ne s'oppose à leur retour, sur le plan judiciaire en tout cas. Le non-lieu est une décision de justice majeure pour le président de la Fédération française de rugby. Alors, avez-vous envie de voir Oscar Jégou et Hugo Oradou en bleu dans le coin gauche? La team oui, représentée par Denis Charvet et Pascal Duprat. Dans le coin droit, la team non, Christophe Cessieux, Fred Weiss. Eh oui, c'est un 2 contre 2. Mais avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC. Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut Jean-Christophe. Bonjour à toutes et à tous.
Salut. Les deux joueurs ont déjà des soutiens de poids.
Oui, on peut dire en premier lieu Fabien Galthié, hein, puisque déjà à la sortie même de la tournée en Argentine, mi-juillet, le sélectionneur affirmait dans les colonnes de Midi Olympique, je cite, « Je ne parle pas de Jégou et Oradou à l'imparfait, ils font toujours partie de nos pépites ». Donc c'est plus que jamais valable, notamment de par les dernières performances d'Oscar Jégou avec La Rochelle. Dès le délibéré annoncé mardi, la Fédération française de rugby a donc publié un communiqué ouvrant la porte à leur sélection. Et tu l'as dit Jean-Christophe, même si la victime présumée a fait appel, le président Florian Grill, le président de la Fédération française de rugby, l'a confirmé à RMC Sport. Les deux joueurs sont sélectionnables. On raisonne maintenant en termes sportifs. C'est ce qu'a fait un cadre des Bleus, Grégory Aldrit, cette semaine à La Rochelle, lorsqu'il a été interrogé sur un éventuel retour de Jégou au sein du 15 de France. Écoutez-le au micro de Romain Astin.
Ah bah, s'il continue à ce niveau, c'est sûr qu'il fera partie des 42, je pense, pour le tournoi. Ouais. Non, il est impressionnant physiquement, il amène beaucoup d'impact dans toutes ses prises de décision. Donc, il nous fait énormément de bien. Ouais.
Il incombe maintenant à Fabien Galthié et son staff de prendre la décision de sélectionner ou Oscar Jégou ou Hugo Radou ou les deux dans le groupe des 42 joueurs qui prépareront le tournoi des 6 nations. Cette liste sortira mi-janvier. Et si ça arrive, ce sera tout d'abord une convocation pour la préparation à Marcoussi. En tout cas, la justice a décidé de statuer sur leur innocence et franchement, on voit mal l'appel mettre à mal cette situation. Pour le manager de Jégou à La Rochelle, Ronan O'Gara, il faut juste être prudent avec le joueur.
On ne sait pas vraiment comment ils vivent. J'imagine que c'est très, très difficile. Moi, je suis son coach, je suis très fier de lui, mais ce n'est pas facile. Parce que c'est un enfant, il est très jeune, très, très jeune. Il a besoin d'être protégé, il a besoin d'apprendre, il a besoin d'être éduqué comme les autres.
Rendez-vous donc maintenant mi-janvier à l'annonce de la liste de Fabien Galthié.
Merci beaucoup Wilfried Templier pour ces précisions. Avez-vous envie de voir en équipe de France Jégou et Oradou? C'est très disputé. On vous a posé cette question, c'est notre consultation sur le compte X des grandes gueules du sport. Oui ou non pour l'instant, pour vous c'est non à 58%, oui à 42%, vous êtes plutôt dans le camp de Christophe Cessieux et de Fred Weiss. Vous allez donc commencer, Denis Charvet, Pascal Duprat. Denis, pourquoi
écoute,
oui
à partir du moment où ils sont innocents, moi, je fais confiance à la justice. Excusez-moi. La justice, quelle qu'elle soit, de française ou ailleurs, je pense que, voilà, ils ont payé.
Ils ont payé médiatiquement, c'est ça que tu veux nous dire?
Bah oui. Et puis, moi, j'adore les propos de Ronan O'Gara, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais c'est des gamins, quoi. C'est-à-dire, après, à partir du moment où ils sont reconnus innocents, mais on peut pas vivre à leur place le calvaire que ça a été. Donc, voilà, moi, à partir du moment où ils sont innocents, pourquoi les condamner davantage et mettre un temps, pour qu'ils réintègrent l'équipe de France? Parce que, je sais pas ce que va dire Christophe ou Fred, mais pour eux, j'espère que c'est pas à vie de pas être en équipe de France, ou sélectionnable en équipe de France. Voilà, je pense qu'on peut pas punir à vie un garçon qui n'a pas fauté,
qui n'a rien fait,
qui n'a rien fait puisqu'il est reconnu innocent. Donc moi, je veux bien entendre les arguments des autres, mais à partir du moment où tu es innocent.
Et puis, on va aller sur ce terrain-là tout de suite parce qu'il y a qui a fauté, peut-être vis-à-vis de l'équipe de France, qui n'a pas fauté pénalement, parce qu'il y a eu un non-lieu.
Tu as raison.
Mais ils ont peut-être fauté.
Sur la forme.
Vis-à-vis du maillot bleu.
Oui.
Mais alors, ils ne sont pas les seuls, alors.
Non, bien sûr.
Non, mais ça, c'était condamnable. D'ailleurs, le président Grill a été ferme. Je trouve qu'il a pris la bonne décision. Tout de suite, il a dit, ils ne sont pas sélectionnables. Voilà. Donc, tant qu'ils ne sont pas jugés, tant qu'ils ne sont pas reconnus innocents, ils ne sont pas sélectionnables. Mais c'est vrai que, forcément, ce que tu dis, je te rejoins. L'image de l'équipe de France était un peu écornée. On peut pas ne pas le reconnaître. Ça serait pas bien. Donc,
ouais, mais est-ce sincèrement de leur faute?
Ah ben oui, t'es coupable.
N'est-ce pas de la faute des instances que de laisser des joueurs qui sont en tournée aller en boîte, boire de l'alcool et ensuite ramener des nanas, femmes Pascal, dans leur chambre? Est-ce que c'était les seuls?
Non, Pascal,
c'est ça ma question.
Oui, mais j'ai fait 10 tournées avec les Barbarians comme manager. Ce que tu dis, c'est ce que tu as envie, que ça se passe comme ça, tu as envie, mais ça se passe jamais comme ça en fait. Tu peux pas, tu as un groupe de joueurs, de 30 joueurs à l'étranger, mais tu crois que tu vas les tenir en laisse, mais c'est impossible.
Mais surtout, tu peux pas les déresponsabiliser.
Mais
s'ils sont très jeunes, et c'est quand même des adultes, ils doivent faire leur
choix. Je finis, Pascal, laisse-moi finir. Je dis juste, moi, le premier discours que je dis aux joueurs, je dis, vous êtes des libres, mais avant tout d'être responsables. Toujours, je fais ce discours-là. Parce que je dis, vous allez partir dans la nuit, vous allez faire ce que vous voulez. Mais surtout, faites pas ça. Mais ça ne veut pas dire parce que tu le dis qu'ils vont pas le faire. C'est pour ça que je condamne pas Oscar Jégou et
Oradou. D'accord avec toi.
Après, c'est vrai que quand ça sort dans la presse et que ça prend une telle ampleur médiatique, tu es obligé de reconnaître que ça touche l'équipe de France.
Ok, le camp du non, et Pascal, je te redonne la main. Non, vous n'avez pas forcément envie de les revoir en bleu.
Moi, j'ai pas envie de les revoir, justement, parce que c'est ce que vient d'expliquer Denis, c'est qu'ils ont écorné un petit peu le maillot bleu quand même, quoi qu'il en soit, qu'ils soient coupables ou pas, ils ont fait des choses qui ne correspondaient
pas
à ce que voulait le maillot bleu, d'une part. Ensuite, on a entendu le coach de Jégou qui dit, c'est encore des gamins, ils ont besoin d'être protégés. Vous pensez vraiment que c'est protéger des gamins que les envoyer en équipe de France après ce qui s'est passé? Vraiment? Pour moi, c'est au contraire jeter de l'huile sur le feu et dire, allez, alors, vous êtes en pâture devant tout le monde.
Tu brises leur carrière alors qu'ils n'ont rien fait de répréhensible.
Non, Pascal. Allons-y tranquillement. Pour l'instant, ils ont un non-lieu. Il y a un appel qui aura lieu. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que, en gros, admettons qu'ils soient reconnus coupables après l'appel. Admettons seulement. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire jouer des garçons. Et puis on va dire après, ah ben non, finalement on s'est trompé, on va les retirer parce que après l'appel, ils ont été reconnus coupables. À un moment, je pense que le principe de précaution est le meilleur. Il s'est passé des choses incroyables cet été avec l'équipe de France de rugby. Ça a été compliqué à faire passer un petit peu. On va prendre un petit peu notre temps, être tranquille avec eux, ne pas leur mettre trop de pression, ne pas trop les exposer. Et après, si tout se passe bien, si tout se calme et qu'ils ont le niveau, parce que je pense que celui qui a le plus le niveau des deux, c'est plutôt Jégou. Si je parle de contrôle.
Aujourd'hui, non, mais...
À partir de là, on pourra dire oui, on les reprend. Et moi, je suis pas d'avis de les condamner à vie. Évidemment que non. Mais prenons un petit peu de temps, tranquillement. Ne mettons pas d'huile sur le feu. On se rappelle ce qui s'est passé cet été.
Une fois que la justice sera passée, la justice est passée. Une fois que la justice sera passée,
oui.
Non, donc il restera la mémoire. Et en fait, ces deux garçons, ils payent pour des atavismes du rugby qui existe aussi au foot. Et là, Denis, il n'y a aucun problème sur ce que tu as dit tout à l'heure. Mais moi, je vois que la justice argentine et les juges qui ont fait une enquête sérieuse qui a duré du temps, une affaire qui a été ultra médiatisée, voilà pas qu'on arrive à un non-lieu et qu'on dit les charges sont nulles.
Donc tu entends me dire voilà que l'appel ne sert à rien.
C'est son droit à la plaignante. Mais donc, cela dit, des juges sérieux ont dit qu'il n'y avait pas de charge suffisante. Donc, ça veut dire que ces deux joueurs-là, tu les prives, si tant est, tu l'as dit, qu'ils soient sélectionnables par leur qualité. Ces garçons-là, on va les empêcher d'aller en équipe de France alors qu'ils sont innocents. Je voudrais dire, et poursuivre, et ensuite Christophe, tu parles, mais donc, j'imagine qu'ils sont pas les seuls à être sortis. Ils sont pas les seuls à être sortis. Il y en avait d'autres. Malheureusement, c'est le régime du pas vu, pas pris.
C'est un prix dur à payer. C'est le pas vu, pas pris, exactement. C'est le problème qui a été pris.
Mais moi, ce que j'aimerais à ce moment-là, si je rejoins Christophe et Fred, à ce moment-là, tous ceux qui sont sortis, tous ceux qui ont bu, tous ceux qui sont rentrés dans leur chambre avec une compagne, eh bien, ils doivent être enlevés d'équipe de France.
Donc ceux qui sont échappés, les autres,
on l'a pas su.
Je suis d'accord avec Denis.
Je donne la main à Christophe. Juste, on ne parle pas du procès là. On n'est pas là pour faire le procès des deux. Il a déjà eu lieu. On est là en train de se dire, évidemment, si ce qui s'est passé, ce qui a pu nuire à l'image de l'équipe de France, est-ce que ces deux joueurs, on les reprend rapidement? Et vous avez entendu Grégory Aldrit qui a du poids au sein du 15 de France. Il dit, mais il faut qu'ils soient autour tournoi destination, donc c'est la liste, c'est dans un mois de Christophe Galtier,
c'est son coéquipier, c'est pas la même chose. Évidemment, moi je pense qu'il y a deux culpabilités dans cette histoire. Il y a la culpabilité pénale. La justice argentine a décidé d'innocenter ces deux garçons, a décidé de dire qu'ils étaient de doux agneaux, de gentils jeunes hommes qui ne voulaient qu'un peu d'amour et tendresse, la véritable coupable, la méchante de l'histoire, c'est cette femme argentine assoiffée de sexe, assoiffée d'alcool, avide d'argent, les a attirés dans leur chambre pour leur soutirer toutes leurs économies. Ça, c'est ce que dit.
C'est pas ce que dit.
Je force un peu le trait. Ouais. Mais en gros, beaucoup. C'est un bizarre. Ils sont innocents de tout.
Non, mais c'est pas bizarre.
Ils envisagent de l'attaquer en justice.
À partir du moment où ils se considèrent innocents, c'est le processus normal.
Ils sont innocents. Au point de vue pénal, puisque la justice argentine a décidé ça. Mais au point de vue réglementaire, je suis désolé, mais moi, ils ont donné une alors peut-être qu'ils se sont fait avoir, mais ramener une nana dans la chambre d'hôtel complètement bourrée à 6h du mat, la partager avec son copain, je suis désolé, c'est pas l'image que j'ai envie d'avoir de jeunes gens qui représentent l'équipe de France, qui portent le maillot bleu.
Donc à vie, mais là c'est un peu chaud encore.
Laissons encore un peu de passer de l'eau sous les ponts et voyons déjà comment il se comporte. On rappelle quand même que l'un des deux joueurs, juste avant cette histoire, avait été contrôlé positif à la cocaïne dans une autre histoire. Derrière, il y a cette histoire réglementaire où il tombe machin. Attendons un peu, l'équipe de France, tu dois être au sommet et pas seulement au sommet du jeu, tu dois être aussi quelqu'un de respectable, respecté. Et je suis désolé, ils ont donné une mauvaise image. Encore aujourd'hui, moi, chaque fois que je dis que je suis un fan de rugby, on me dit, ah ouais, ces violeurs de femmes, ces alcooliques et tout ça. Donc, ils ont donné une mauvaise image du rugby. Peut-être qu'ils se sont fait avoir, j'en sais rien. J'étais pas dans la chambre avec eux.
Mais il y a tout un processus maintenant.
Mais attendons un peu, quoi.
On l'a vu dans les clubs, on va y aller progressivement dans le club. L'équipe de France, c'est un niveau au-dessus. Et encore une fois, je suis d'accord avec Christophe. Pourquoi aussi rapidement, tranquillement?
Mais il y a un purgatoire. J'ai une raison
Ils doivent prouver des choses. Et voilà. Oui, ils ont commis une erreur. Ils se sont fait choper. Fred, c'est comme ça.
Fred, une erreur. Oui, mais ils sont innocents. Donc une erreur. Tu veux pas.
Oui, par rapport à une charte de l'équipe de France.
Ils sont innocents. Non, devant la justice.
Eh bien oui.
Mais devant le règlement, devant le règlement de l'équipe de France.
Ils ont tranché.
La déontologie, tu veux dire.
Le président a tranché.
Top, je prends la main.
Si tout va bien dans le meilleur des mondes, élisons-les, président de la République et à la tête de la Fédération française.
Priorité au direct, Clément Noël qui dispute à Val d'Isère la première manche du slalom géant, Léna Marjac, Sébastien Amier.
Oui, ça y est, Clément Noël qui est parti. Attention, parce qu'il y a eu des grosses erreurs sur le haut de cette phase de Bellewaerde. 6 dixièmes de retard au premier intermédiaire Bastoun. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on attendait forcément Clément, donc il va pas forcément chercher un gros résultat aujourd'hui sur le géant.
Ah oui, puis en plus il est pas farci avec le nuage. Le nuage est juste venu pour Lavalin de chez lui à domicile quand il est parti sur le
parcours. Oh, oh là là, ouais, la
grosse chute dans les filets pour Clément.
Ouais, en espérant qu'il ne se soit pas fait mal. Et là on le voit effectivement dans les bâches, il essaye de. Il bouge un petit peu. Il essaye de se relever, mais ouais, on va couper les images parce que pour l'instant, eh bien, Clément Noël est dans les filets. Il a chuté sur cette première manche de géant Bastoun. On espère vraiment qu'il n'y a pas eu. Non, c'est bon, il s'est relevé.
Bon, c'est une grosse chute. Le ski déchausse avant de rentrer dans les filets. Ça a l'air d'aller. Il a levé la main, mais il est secoué quand même, le garçon.
Ouais, il est penché. Il s'est mis la main sur le genou, mais il a l'air de dire ça va. Ouais. Plus de peur que de mal.
Bon, dès que vous avez des nouvelles, évidemment, concernant Clément Noël, priorité au direct dans cette émission, vous venez nous le dire. Clément Noël qui vient de chuter lors de cette première manche du slalom géant à Val d'Isère. On rappelle qu'Alexis Pinturo est parti un petit peu plus tôt. Il est combien, Alexis Pinturo, là?
Alexis Pinturo est 10e provisoire et juste derrière on retrouve un petit Français également, 12e, c'est Léo Anguenot qui a fait une très belle manche. Donc on aura des Français en seconde manche tout à l'heure à partir de 13h.
Parfait, à tout à l'heure Léna Marchac et Sébastien Amier, évidemment, dès que vous avez des nouvelles de Clément Noël, vous venez nous le dire. Oui, rapidement.
Rapidement, j'entends ce que dit Fred et Christophe et ça se tient, mais par rapport à l'image, forcément, c'est très frais encore. C'est vrai que dans la tête du grand public aujourd'hui, quand tu dis Oscar Jégou ou Radou,
d'autant Denis,
tu as
de
noms qui résonne par rapport à une affaire, une sale affaire, on va dire.
D'autant, je pense. Regarde, oui, il y a la simultanéité avec l'affaire qui a été jugée cette nuit.
Oui,
d'autres joueurs de rugby avec une autre nana dans une autre chambre.
Tu peux pas, ne compare pas les deux parce que ça serait.
Oui, mais la matière peut être rapidement fait, malheureusement.
Mais qui ont quand même.
C'est peut-être aussi le moment de l'ancien équipe de France, mais pour qu'il prouve qu'il y a une forme de revanche, il y a une forme de comment dire, de respect, de tenue, d'attitude. Peut-être que s'ils ont le niveau rugbystique, peut-être que c'est aussi une démarche.
Oscar Jégou, là, aujourd'hui.
Mais là, oui, bien sûr.
Ah, pour rentrer dans la liste des 42, il est là, aujourd'hui.
Alors, je sais que tu veux pardonner à tout le monde. Awas, tu le prends en équipe de France demain aussi, Denis ?
Qui ça ?
Mohamed Awas, tu le prends en équipe de France, là ?
Non, tu peux pas.
Ah, bah.
Mais non, mais Mohamed Awas, ça a été condamné, pareil, Christophe.
Condamné.
Non, mais ça n'a rien à voir. Enfin, non, mais les mots ont un sens, les copains.
C'est pas la même
chose. Mais oui, Christophe.
Moi, je veux bien comprendre.
Il fait des amalgames.
Oui, là, c'est amalgame.
Parlons évidemment de l'image du 15 de France et ne faisons pas le procès des uns et des autres, parce que surtout qu'on en a beaucoup parlé d'Oscar Jégou et d'Hugo Oradou, et que souvent, quand ils sont mis en examen, on en fait des caisses, parfois dans les médias, et dès qu'ils sont innocentés, bah, c'est juste un entrefilet, on n'en parle pas. C'est important de le dire. Oscar Jégou, Hugo Oradou ont été innocentés cette semaine par la justice argentine. Maintenant, il y aura un appel, donc peut-être que cette histoire va continuer ou va définitivement s'arrêter. Donc forcément, c'est important de le dire, nous on était sur le côté image de notre équipe de France. Est-ce que Fabien Galthié, dans quelques jours, il se doit dire, bon bah écoutez, c'est bon, ils sont innocentés, Oscar Jégou, faut qu'il vienne parce qu'on a besoin de lui.
Je trouve que les chaînes d'info ont bien relayé l'info. Je trouve que ça a été dit dans tous les journaux de TF1, de France 2.
Et c'est aussi notre mission dans cette émission, parce qu'on en a beaucoup parlé dans cette émission. Ok les copains, il est 10h27, on va poursuivre nos discussions sur un tout autre sujet. Tiens, pour une fois on va parler de basket,
ça fait plaisir.
On va parler de Victor Wembanyama, qui veut venir tous les étés en bleu. Est-ce une parole en l'air, oui ou non? On se posera évidemment la question, et puis vous le savez, c'est le grand jeu de Noël. Ah non, c'est pas le grand jeu Noël, on me dit Noël dans le casque. Non, c'est Clément Noël, comment va-t-il? Eh bien, donnez-nous une bonne nouvelle, Léna Marchac et Sébastien Amier.
Oui, Clément Noël qui a rechaussé les skis, il a fait une petite partie de la piste, il a traversé la piste de la face de Bellewaerde en ski, mais là il vient de déchausser, on l'a vu discuter, mais en tout cas Bastoun, ça avait l'air quand même d'aller quand on l'a vu sur les images.
Ouais, c'est plutôt rassurant de le voir remettre les skis, on l'a vu se tester un petit peu son genou. Là, il est sur le bord avec un pisteur secouriste et un membre de l'équipe de France de ski pour peut-être regarder un petit peu. Je pense qu'il a dû s'ouvrir un petit peu le nez aussi dans la bâche. C'est peut-être ça qu'elle regarde plutôt que ses jambes. En tout cas, cette chute était plus impressionnante que qu'on est quand même sauvé de que ça aurait pu être plus lourd de conséquences sur une blessure, parce qu'il a quand même pris une bonne boîte.
Donc voilà, Clément Noël sorti donc dès cette première manche de géant, mais on a d'autres Français qui sont bien partis. C'est en tout cas le cas d'Alexis Peintureau, 10e provisoire.
Et le jeu de Noël, ce sera un petit peu plus tard, et tant mieux, Clément Noël va bien après cette chute. Victor Wembanyama, c'est la suite de votre programme dans les grandes gueules du sport. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi avec Christophe Cessieux, Denis Charvet, Pascal Duprat, Fred Weiss. Dans 10 minutes, le zapping des GG, on s'en fout pas. J'ai beaucoup d'informations à vous donner, notamment les élections à la Fédération française de football. Le résultat, ce sera aux alentours de midi. On retrouvera notre envoyé spécial en plein Paris dans quelques instants. Donc voilà, restez bien avec nous pour le on s'en fout pas. Alors c'est un engagement total, mais périlleux. Cette semaine, Victor Wembanyama a fait une grande annonce sur son avenir en équipe de France. Sacrifier tous ses étés pour porter le maillot bleu, c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
C'est toujours le temps de faire l'équipe de France. C'est juste que ça dépend. Il faut juste sacrifier un peu de sa prépa et de sa préparation physique pour la saison après. Mais en tout cas, ouais, moi c'est clairement mon but de faire l'équipe de France tous les étés.
C'est clairement mon but de faire l'équipe de France tous les étés. Est-ce une parole en l'air ? Oui ou non ? Denis Charvet ?
Non.
Christophe Cessieux ?
J'ai peur que oui.
Pascal Duprat ?
Non.
Fred Weiss ?
Non.
Non. J'ai trois noms, j'ai un oui. Christophe ?
Comme d'habitude.
Pourquoi oui ? Pourquoi t'as peur que oui ?
Mais écoute, je sais pas, c'est juste une impression. Ce sera, je pense que ses promesses seront difficiles à tenir. En tout cas, sa prise de parole, elle est intéressante. C'est bien que la star du basket français dise qu'il a envie de jouer sous le maillot bleu. Ça rappelle un peu ce que disait Tony Parker à l'époque. Et effectivement, Tony Parker est venu régulièrement disputer les compétitions avec l'équipe de France. Et c'est quand même pas tous les jours qu'une star de basket NBA confie son amour pour le maillot bleu. Il y a eu des exemples, donc je disais Tony Parker ou Nicolas Batum, mais tous n'ont pas été aussi prompts à venir défendre le maillot bleu. Maintenant, quand il dit qu'il y sera tous les étés, j'ai un peu de mal à y croire. On sait que les saisons NBA sont très longues, que les franchises ont toujours un peu de mal à lâcher leurs stars, qu'ils payent des millions de dollars dans la nature et dans des championnats où ils risquent de se péter comme ça en plein été. Et puis en plus, il y a aussi la préparation de saison qui est capitale pour les clubs de NBA. Alors c'est vrai que San Antonio, a priori, tu me contredis si je dis une bêtise, Fred, a plutôt tendance à l'époque de Parker, en tout cas, de laisser ses joueurs français.
Je pense que c'est la franchise qui est plus favorable justement à avoir cet accès aux équipes nationales.
Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, un bon truc. Victor, c'est pas encore Tony au point de vue du poids, même si c'est une star. Mais est-ce qu'il peut aller demain dire à Greg Popovich, cet été là j'ai l'euro là, donc si tu vas me laisser partir d'abord, 3 mois.
Ouais. Il n'aura même pas besoin de lui dire, parce que Greg Popovich est un amoureux du jeu FIBA. Il comprend que ça peut permettre de progresser et il comprend l'envie qu'ont les joueurs d'aller jouer en FIBA. D'accord. Donc vraiment, encore une fois, dans d'autres franchises, je sais pas si j'aurais pu être aussi affirmatif, mais là, par rapport à sa franchise, il y a zéro problème, et au contraire, on sera ravis qu'il aille en équipe nationale du côté de...
Cela dit, il y a une chose, il parle de sacrifier sa pré-saison, en fait. Quand il vient avec l'équipe de France.
C'est vrai.
Oui, non, mais c'est important ce qu'il a dit, parce qu'en fait, c'est tout l'enjeu, il est là. Parce qu'on sait très bien que d'enchaîner les saisons avec l'équipe de France, c'est monstrueux.
Ah oui, c'est avec tous les matchs qu'ils font, avec tous les enchaînements de préparation, etc. L'équipe de France qui se met en plus, effectivement, c'est énorme. Mais ça serait
mieux. Tu risques des bobos si t'es blessé en fin de saison. Est-ce que ton coach va te laisser partir en
Europe? C'est un énorme débat. Et
c'est la rançon de la gloire, Christophe.
Évidemment. Mais il faut quand même se rendre compte que c'est un glouton, et ça serait méconnaître ou Wembanyama que de dire qu'il n'ira pas en équipe de France. Lui, sa volonté, c'est d'être dans un basket total, global, d'être une icône du sport et d'être le meilleur partout.
Le meilleur partout, ouais.
Donc, il peut être le meilleur en NBA, mais pour être le meilleur en France, c'est important aussi. Il faut aussi, tu connais cette expression, nul n'est prophète en son pays. Lui, il veut être prophète partout. Et pour être prophète partout, en France, il faut marquer des points aussi avec l'équipe de France. Tony Parker en est l'exemple parfait. Le problème de la NBA, c'est que c'est un championnat qui est merveilleux, mais qui se joue à des horaires très compliqués. Donc, moins connu en France. S'il veut être un des sportifs préférés des Français, et c'est un de ses objectifs, évidemment. Il en a tellement des objectifs, mais celui-là en fait partie.
Il a goûté.
Il est obligé d'être avec l'équipe de France. Il est obligé d'être performant. Il est obligé de gagner quelque chose avec l'équipe de France, ça le fera rentrer dans une autre dynastie, j'ai envie de dire.
Déjà, il a gagné la médaille
Cela dit,
il va devoir négocier un contrat à 330 millions
il le laisse
de dollars.
Partir. Il
encore le fric.
Il le laisse repartir. Ouais.
Encore l'argent.
C'est important l'argent, Pascal.
Encore l'argent,
Christophe. Toi, tu es entraîneur de football, tu as l'impression que l'argent n'est pas important pour toi. Alors que tu as gagné en un mois, en un an, ce qu'on a gagné dans toute notre carrière.
Qu'est-ce que tu en sais? Cela dit, c'est aussi une affaire d'impression me concernant, mais n'est-ce pas rafraîchissant? Plutôt que d'aller sur est-ce une parole en l'air, moi je pense qu'il est sincère, je pense qu'il est amoureux de son sport, Fred vient de nous le prouver également, et je pense que ça, voilà, c'est rafraîchissant.
Oui, mais...
Il a envie, et ça correspond à son âge, il a 20 ans, ça doit être une star, ça doit être une star planétaire, et bien à 20 ans, on peut pas faire l'économie d'une sélection en équipe de France. Pouvez-vous me citer, s'il vous plaît, un sportif français de renom qui a 20 ans dit « Oh, je vais sélectionner les fois où je vais aller en équipe de France ». J'ai bien dit un sportif de renom en France. Vous pouvez m'en citer un ?
Non, mais l'envie, Pascal, je comprends l'envie.
Joachim Noah, c'est pas un peu ça, Joachim Noah ?
La question, c'est est-ce une parole en l'air ?
Mais c'est pas une parole en l'air. On sent que le gamin, il est passionné. Mais après, je pense quand même qu'il y a une réalité, c'est son état de forme, son corps, si son corps suit. Je crois qu'il y a quand même il faut prendre en compte quand même l'aspect physique.
Il fera peut-être l'impasse sur certaines compétitions parce que physiquement, il est pas bien, etc. Mais sa volonté, c'est présent au maximum.
Sa volonté, ça, on l'entend. Et je pense que tout le monde est très heureux de se dire que, il annonce un cap. Il dit, il y a l'Euro en 2025, j'ai envie de le faire. Il y a la Coupe du Monde en 2027, j'ai envie de le faire. Il y a les Jeux Olympiques en 2028, j'ai envie d'y participer.
Bravo à lui.
Mais je suis d'accord.
C'est une chose.
Il y a juste une précaution tout de même à avoir. C'est qu'il y a un précédent. C'est-à-dire qu'il voulait faire le Mondial 2023 avant les Jeux Olympiques.
Je vais répondre.
Il voulait faire le Mondial 2023. Sauf qu'à un moment donné, son entourage lui a conseillé fermement de dire « Il vaut mieux que tu prépares ton arrivée en NBA plutôt que de faire le Mondial 2023. Oui, » Mais attendez, je ne dis pas que c'est mal, ça s'entend. Sauf qu'il a dit avant « Je veux faire le Mondial 2023 » et qu'à un moment donné, il a appelé Vincent Collet en disant « Je ne vais pas venir. »
Il y a une réalité qui l'a rattrapé.
Dans trois ans, il n'y a pas une autre réalité qui va le rattraper.
Je vais répondre à ça et c'est super intéressant parce que je savais que quelqu'un allait venir. Je pensais que ce serait Christophe. Il n'est pas allé en 2020 ce matin. Pourquoi ? Parce qu'il était dans l'étape de sa carrière la plus incroyable de sa jeune histoire de carrière. Parce que il se retrouvait de passer du championnat de France à être drafté par la NBA. Il devait se préparer à tous ses matchs. Et il arrivait, même si c'était le numéro 1 de la draft, pas avec le même statut qu'il a actuellement. Actuellement, tout le monde sait ce qu'il a fait déjà. Il lui fallait une année pour montrer au monde qu'il était capable directement de s'adapter, de montrer au monde quel joueur il était vraiment. Parce que, concrètement, quand tu draftes un mec qui a joué en France, tout le monde pense que c'est une licorne, mais il faut le prouver sur le terrain. Il l'a prouvé sur le terrain.
Et je te dis d'abord que dans deux ans, quand il va devoir re-signer un contrat avec des millions de dollars.
Il n'aura pas le même poids.
Mais si justement, c'est le GOAT espère. À un moment donné, sa franchise va dire non, mais nous, il faut qu'on gagne le titre NBA, donc ton euro, t'es sympa.
Tu te rappelles pas de Tony Parker alors? Parce qu'il faut se rappeler que Tony Parker.
Mais Tony Parker n'était pas la pierre angulaire.
Alors, j'entends ce que tu dis, mais Tony Parker a été un joueur d'impact et impressionnant.
Bien sûr,
il a été MVP des finales, donc c'est quand même un joueur dont on avait besoin là-bas.
Mais c'était un joueur majeur, la destinée de Victor Wembanyama,
c'est pas la même.
C'est pas la même, non, c'est d'être le meilleur joueur de cette ligue. Est-ce que ça change pas tout dans ses volontés d'aller en équipe nationale?
Il faut aussi aller en équipe nationale.
Non, c'est pas vrai. LeBron James n'a pas besoin des États-Unis pour être le meilleur joueur.
Pourquoi il déplace les Américains, par exemple, aux Jeux Olympiques?
Aux Jeux Olympiques.
Fred, les Jeux oui. Mais il y a la Coupe du Monde au Qatar, il y a l'Euro. Tu crois qu'il va faire toutes ces compétitions?
Oui, parce que c'est un joueur européen qui doit montrer des choses aussi dans le basket FIBA. Et je pense qu'il va faire plus de compétitions.
Je pense que nous aurons la réponse.
Je pense que Antonio sera pas en juge.
Je ne suis pas d'accord. Tu compares avec Tony Parker. C'est incomparable. C'est incomparable. Pour moi, c'est incomparable.
Non, je pense que tu te trompes. Hein. Tu trompes de l'aura qu'avait Tony Parker.
Non. Ah oui, la dimension, l'attention de Wembamania.
Wembamania. Ok, laisse tomber.
C'est bon.
En fait, Wembamania, c'est pas pareil.
Personnellement, merci.
Je savais pas qu'au travers de vos questions, il fallait qu'on fasse de la voyance.
Oui, parce que là, c'est
pas ce qui va se passer. On sait pas ce qui va se passer dans quelques années. Moi, je prends simplement un joueur, une star, qui confirme dès sa première année aux États-Unis tout le bien qu'on pense de lui. Voilà pas qu'il a envie de jouer en équipe de France. C'est rafraîchissant. Et en fait, c'est pas des paroles en l'air. Voilà, c'est tout. D'accord. Après donc, l'avenir, donc moi, je suis pas Madame Irma.
Tu vas faire toutes les compétitions parce que tu es un voyant. Mais non, mais
on est tous d'accord que c'est frais qui ce mec, c'est plein de fraîcheur que ce mec annonce ça. Mais après, il y a une réalité. Là, je rejoins JC. D'un contexte, il sera différent année après année, tout simplement.
Et je dirais même que pour être le meilleur joueur du monde, est-ce qu'il faut souhaiter qu'il soit tous les étés avec l'équipe de France? Là encore, je suis pas sûr. Il faut aussi peut-être cibler.
Les grandes stars NBA font pour son compétition européenne.
Hein. Oui, ils font.
Luka Doncic, Yannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, ils sont avec leur sélection.
Par exemple. On espère en tout cas, et on est très heureux en tout cas de ce discours de Victor Wembanyama. On voulait en parler ce matin dans les GG. Le zapping dans quelques instants. On s'en fout pas. J'ai beaucoup d'informations à vous donner, notamment les élections à la 3F. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h46, de retour dans les grandes gueules avec ce matin Pascal Duprat, Fred Weiss, Denis Charvet, Christophe Cessieux. À partir de 11h, nous allons parler du parcours fantastique de Brest en Ligue des Champions. Et on se posera cette question, les Brestois doivent-ils aller au Stade de France? Venez réagir, supporters brestois au 32-16, ce sera à partir de 11h. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, ce sont les élections à la Fédération Française de Foot. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je m'en fous.
Tu t'en fous, très bien. Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Fred Weiss.
Je m'en fous pas.
Denis Charvet.
Je m'en fous pas.
Philippe Diallo restera-t-il président de la Fédération Française de Foot? C'est tout l'enjeu de l'Assemblée Générale de la 3F qui se tient aujourd'hui, en ce moment même, dans un hôtel parisien et qui déterminera aux alentours de midi si le dirigeant de 61 ans conserve la tête de la 3F. Il est opposé à Pierre Samsonov. On rejoint tout de suite en plein cœur de Paris Nicolas Pelletier, notre envoyé spécial. Salut Nicolas.
Rebonjour messieurs.
Bon, il faut le dire, hein, Philippe Diallo est tout de même le grand favori à sa propre succession.
Oui, exactement. Philippe Diallo, qui est en poste depuis 2023, il a pris la suite de Noël Le Graët en 2023. Il est le grand favori de cette élection. Mais Pierre Samsonov, un proche de Noël Le Graët et très connu dans le monde amateur, a peut-être son mot à dire. On aura les résultats à midi tout à l'heure. Alors, il faut le rappeler, hein, les clubs pro, les clubs amateurs, ainsi que les ligues et les districts ont déjà voté. C'était un vote électronique qui s'est déroulé mardi et mercredi. Le vote est donc fermé à l'heure où on se parle. Les 28 membres seront désignés. 21 seront élus tout à l'heure. Ce n'était pas une campagne très animée que l'on a connue ces dernières semaines. C'est tout ce qui a marqué les gens qui sont actuellement dans la salle de l'Assemblée Générale. Pierre Samsonov qui souhaite plus de décentralisation auprès des ligues et des districts, alors que Philippe Diallo a vraiment axé sa campagne sur le football amateur. Lui qui est très proche du football professionnel, il a donc voulu se rapprocher du football amateur en augmentant par exemple ce que l'on donne au foot amateur de 100 à 150 millions d'euros par an. Mais c'est vraiment le foot amateur qui a été au cœur de cette campagne. Donc on aura les résultats, tu l'as dit JC tout à l'heure, à midi. On verra si Pierre Samsonov arrive à créer la surprise ou si Philippe Diallo est réélu dans un fauteuil. Les deux hommes devraient s'exprimer à la suite de cette élection.
Et on suivra ça évidemment sur RMC dès qu'il se passe quelque chose. Nicolas, tu nous appelles en direct dans les grandes gueules du sport ou alors à partir de midi dans les paris RMC. Pascal Duprat, sur ce sujet, tu as quelque chose à rajouter ou pas?
Ouais, je trouve que je lis, j'entends ce qui se dit sur le président Diallo, mais je trouve qu'il est dans son rôle. Voilà, il est discret, mais il est efficace. Et puis, de vouloir, comme son concurrent, aller davantage à aider le foot amateur, je pense que c'est le bon sens pour le foot et pour la fédération.
Résultat à midi, aux alentours de midi, donc, et on en parlera sur RMC. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, ce sont les championnats du monde petit bassin à Budapest et une Française qui continue de briller. On s'en fout pas. Denis Charvet.
S'en fout.
Ok.
Petit bassin, je m'en
fous. À grand bassin, là, il y a du monde. Oui, Pascal Dupont.
On parle de natation.
Et évidemment qu'on parle de natation.
Très bon, toi, natation, Pascal.
Non, mais je m'en fous.
Non, mais je m'en fous pas parce qu'il y a Julien qui est parti quand même là-bas. Donc,
surtout, il faut que je vous présente quelqu'un. Alors, vous la connaissez certainement. Elle s'appelle Beryl Gasteldello. Elle est double médaillée d'argent aux mondiaux en petit bassin de Budapest depuis le début de la compétition. Et hier, elle a joué le bronze à sa collection. Et c'est vrai que on parle souvent de Léon Marchand. Il n'est pas là, le GOAT, mais Julien Richard. Bonjour Julien.
Salut. Merci Christophe.
Salut. Il se passe tout de même des choses pour le camp tricolore.
Oui, avec donc Beryl Gasteldello, deux médailles d'argent sur 50 mètres papillon, 100 mètres nage libre, et une de bronze donc sur 100 mètres 4 nage. Trois records de France aussi. Bah, carton plein pour Beryl Gasteldello.
C'est top, je le mérite. Je travaille pour, je le mérite amplement et ça nourrit ma motivation qui est déjà bien là. Mais il va falloir que je me donne du crédit et que je me rende compte que je fais partie des meilleurs mondiaux et que je suis en train de confirmer ça. C'est pas Xena la guerrière, c'est Beryl la guerrière.
Vous l'entendez, c'est une forte personnalité, Beryl Gasteldello. Alors elle n'a pas été épargnée aussi par la vie ces dernières années, c'est peu de le dire. C'est jamais vraiment linéaire et rarement dans la stabilité. Il y a 5 mois, par exemple, elle a rejoint en catastrophe l'INSEP après un conflit avec son club. À 29 ans quand même, la nouvelle capitaine de l'équipe de France, bah du coup n'est pas vraiment surprise de progresser encore.
J'ai vécu beaucoup d'années difficiles et en fait là je commence à avoir de la paix, de la stabilité. Et bah, c'est à 29 ans donc ça arrive, donc je prends. Et c'est ce qui me permet d'être plus sereine. J'ai beaucoup été dans la souffrance, etc. Encore une fois, on va pas revenir sur ça. J'ai pas du tout l'impression d'avoir 29 ans, c'est vraiment sur la carte d'identité, que ce soit dans la tête ou dans le corps. Le but maintenant ce sera de convertir ça l'été prochain.
L'été prochain, ce seront les championnats du monde en grand bassin. Cette fois, on l'a beaucoup catalogué, une nageuse de petit bassin, Beryl Gasteldello. Ce sera à Singapour et notamment sur le 100 mètres nage libre à Budapest. Donc cette semaine, elle est devenue quand même la 5e performeuse de l'histoire sur la distance reine.
Merci beaucoup Julien Richard pour ces précisions. C'est vrai Christophe, rapidement sur ce sujet, quand il n'y a pas Léon Marchand, ça prend moins d'ampleur dans les médias, mais il y a des Français qui performent et c'est dans la continuité des Jeux Olympiques que l'on a pu vivre.
On a l'impression que le petit bassin, c'est un peu, c'est pas valorisé de la même manière que le grand bassin de 50 mètres. Je me demande, Julien, pourquoi du coup on fait ces compétitions et pourquoi on fait pas que des compétitions dans des piscines de 50 mètres du coup, parce que là c'est un peu, c'est pas la sous-natation, mais presque. Enfin, quand on t'entend parler autour de toi.
Toi, t'aimes bien rester près de la cheminée au cœur de l'hiver. Ben voilà, c'est un peu ça pour eux. Ça leur permet d'occuper leur hiver. Non, mais c'est une façon, entre guillemets, fun de passer cette période après l'été où il y a les grosses compétitions historiquement sur le bassin olympique. Le bassin olympique, c'est le bassin de 50 mètres. Les championnats du monde l'été prochain sera en bassin de 50 mètres. Les Jeux olympiques, c'est en bassin de 50 mètres. Donc le bassin de 25 mètres, c'est vrai, c'est un peu moins valorisé. Mais c'est très spectaculaire.
Il y a des... le passage sous l'eau est encore plus important dans les petits bassins, c'est ça? Ça va plus vite? Une compétition sur un 100 mètres en petit bassin, ça va plus vite qu'en grand bassin?
Ah oui, tout va plus vite en fait, puisqu'il y a ces parties sous-marines où on va donc beaucoup plus vite quand on est sous l'eau. Donc il y en a deux fois plus, puisqu'il y a deux fois plus de virages, plus de longueur. Donc voilà, c'est vraiment spectaculaire, mais c'est vrai que historiquement, bah, c'est moins valorisé que le grand bassin. Ça n'empêche qu'il y a aussi des nageurs qui sont peut-être plus spécialisés, justement, avec leur force sous l'eau. On pense notamment à Léon Marchand qui aurait été énorme ici dans ces championnats du monde, qui aurait rajouté quelques records du monde très certainement. Mais c'est une bonne préparation, une bonne façon de reprendre aussi après les Jeux Olympiques pour se remettre dans la compétition.
Et il y a des Français qui cartonnent et c'est important d'en parler dans cette émission. Merci beaucoup Julien Richard, tu vas suivre ces championnats du monde petit bassin pour nous. Toutes les informations à retrouver sur rmcsport.fr et aujourd'hui il y aura notamment Maxime Grousset dans la piscine de Budapest. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est une fin de série pour le Paris Basketball en Euroleague. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
J'ai pas vu le match donc je vais laisser Fred parler.
Ok, Pascal Duprat.
Je vais me délecter des paroles de Fred.
Ok, c'est une façon polie de dire on s'en fout. Denis Charvet.
Je m'en fous pas, j'attends de...
Bon bah Fred, t'as envie d'en parler quand même.
Envie d'en parler, ouais.
Alors, heureusement, merci beaucoup. Après une série de 10 victoires de rang en Euroleague, hein, on en parlait la semaine dernière dans les grandes gueules du sport, le Paris Basketball a chuté hier sur le parquet de l'ASVEL au terme d'un match magnifique, 98 à 93.
C'était à la télé ou non?
C'était sur Quick.
Ah, sur ce truc,
c'est ça. Ouais.
Alors, Paris est toujours leader. L'ASVEL est 13e, mais c'est vrai que c'était un magnifique choc franco-français.
Oui, alors honnêtement, on a une équipe de Paris Basketball qui faisait une saison fantastique. C'est incroyable d'avoir enchaîné autant de victoires. Il fallait bien évidemment qu'à un moment ça s'arrête, surtout qu'ils ont un jeu à risque. Je lis beaucoup la presse espagnole, ils ont considéré que Paris Basketball était l'équipe qui jouait le mieux au basket et la plus plaisante à regarder. Donc c'est quand même un symbole fort pour nous. Il faut se rendre compte qu'en Euroleague actuellement, les deux premiers de l'Euroleague, c'est Paris et Monaco, donc deux du championnat de France. Et finalement, ceux qui arrêtent la série, cette magnifique équipe parisienne, ben c'est des Français encore avec l'ASVEL. Donc franchement, on est hyper content de ce qui se passe dans le basket. On a des joueurs qui d'impact. On a Théo Malédon qui fait un très bon match. Théo Malédon qui était en NBA, qui était passé par l'ASVEL, qui est revenu, qui fait un excellent match. Et on a TJ Short, bien sûr, du côté de Paris Basketball, Nadir Rifi. Tous ces joueurs seront au All-Star Game le 29 et l'All-Star Game sera sur RMC aussi. Donc très content que de cette série. Dommage que ça s'arrête, mais encore une fois, tant mieux pour l'ASVEL.
Et quitte à chuter, autant chuter face à une équipe française. C'est ce que tu veux nous dire. Voilà. Allez, les Français en Euroleague, en tout cas, qui cartonnent et on continue de suivre ça sur RMC. Un petit point à Val d'Isère avec cette première manche du slalom géant qui est sur le point de se terminer. Il y aura 4 Français, Léna Marjac en deuxième manche.
Oui, 4 Français qualifiés effectivement pour cette deuxième manche prévue à 13h tout à l'heure. On retrouvera Alexis Pinturo qui a terminé 10e donc de la première manche, Léo Anguenaud, Thibaut Favreau. Et alors la petite surprise du jour, c'est Alban Elesi Canaferina, 2e départ seulement en Coupe du Monde. Et bien il est allé chercher la 23e place de cette première manche du géant. Et je vous donne aussi quelques petites nouvelles de Clément Noël qui a lourdement chuté après quelques secondes de ce géant. Il a pu redescendre à ski, certes, il a une douleur à la cheville droite, mais surtout il a des dents cassées, donc il va être pris en charge. Il a dents cassées effectivement sur le devant là, donc il a été pris en charge. On va attendre de voir si on a plus de nouvelles et savoir surtout s'il prendra le départ demain en slalom, mais ça risque d'être compromis.
Ok, merci pour ces informations.
Maintenant qu'il n'est pas un protège-dents,
Léna Marjac.
Et c'est un peu embêtant pour le slalom de demain. Et je voulais juste savoir si Bastoun avait enfin rechaussé les skis, parce que quand même, serait temps de s'y mettre.
Il m'a dit qu'il avait rechaussé les skis il y a 2 jours.
Ah bah voilà.
Voilà.
C'est une très bonne nouvelle. Allez, 10h57, à tout à l'heure, Léna Marjac, des nouvelles évidemment dans cette émission de Clément Noël. On se retrouve dans quelques instants pour parler de la Ligue des Champions, de Brest et pourquoi pas du Stade de France. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.